French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Aujourd'hui, nous prenons la direction de Grand Rapids dans le Michigan, au nord des États-Unis, et nous partons à la rencontre d'Alison. Nous allons parler de son amour pour Disney qui l'amènera à Orlando, en Floride, au sein du parc Epcot pendant un an. Une fois cette expérience passée, Alison est complètement transformée et de retour en France, elle cherche à repartir à tout prix aux États-Unis. Si son entourage la soutient dans ce projet, au bout de 18 mois sans proposition précise, l'inquiétude plane. Finalement, un projet se dessine, une offre de VIE, volontariat international en entreprise, puis direction le Michigan. Quelques semaines plus tard, Alison rencontre l'amour de sa vie, ça ne s'invente pas, avec qui elle se marie un an plus tard. Dans cet épisode, nous parlons de biculturalité au sein du couple, d'expatriation par VIE et du visa Q1 spécial Disney. Enfin, nous parlons aussi beaucoup du monde du travail américain et des grandes différences avec la France, notamment en période de crise comme celle que nous vivons actuellement avec le coronavirus. Allez, c'est parti, place à ma rencontre avec Alison. Bonsoir Alison, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ?
Hello Anne-Fleur, merci de m'accueillir sur le podcast. Je vais très bien et je te parle aujourd'hui de Grand Rapids dans le Michigan.
Ok, alors le Michigan, donc c'est aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous situer ça à peu près sur une carte ?
Alors, le Michigan, c'est dans le nord des États-Unis, c'est avec la frontière du Canada. Donc, par exemple, Grand Rapids, c'est à 3h30 de Chicago, pour te situer.
D'accord, ok, très bien. Bon, bah, je te remercie. Alors, d'où est-ce que tu viens en France ?
Alors, en France, j'ai vécu 13 années en région parisienne et 13 années dans le sud de la France, donc entre Nîmes et Montpellier. J'ai fait mes études à Montpellier.
Donc, tu es aux US pour au moins 13 ans, du coup, c'est ça?
Voilà, on fait par 13. C'est censé porter malheur, mais ça va me porter chance.
Coup, pour l'instant, ça a l'air de bien te réussir. Alors, on va parler aujourd'hui donc de ton expatriation, de tes expatriations plus précisément. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus qui tu es, quel âge t'as? Donc, on sait que tu viens donc des deux opposés en France. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? À quoi ressemble ton quotidien?
Alors, donc moi, je suis Addison, j'ai 28 ans et je suis à Grand Rapids dans le Michigan depuis presque 2 ans maintenant. J'ai donc fait mes études à Montpellier, des études en business international. Et à la suite de ça, j'ai voulu m'expatrier une première fois et ensuite une deuxième fois, donc à Grand Rapids ici.
Ok, bon, on va en parler un petit peu. Avant cette toute première expatriation, on va en parler, qui était donc dans le sud des États-Unis, est-ce que tu pourrais me dire un peu à quoi ressemblait ta vie? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Et peut-être même avant de parler de ça, d'où est venue en fait cette envie de t'expatrier?
Alors en fait, j'ai beaucoup de chance. J'ai pas mal voyagé avec mes parents étant enfant et donc adolescente. J'ai eu ce droit à des séjours linguistiques en Europe dans plusieurs pays, donc de 2 semaines pendant les étés où tu sais, tu es 2 semaines dans une famille d'accueil, tu as des cours le matin et le reste de la journée, tu es avec une famille d'accueil. Donc, tu es obligé de pratiquer la langue. Donc, c'est comme ça que j'ai un petit peu appris l'anglais et un petit peu l'espagnol aussi et ça m'a donné goût au voyage. Et donc, en 2014, à la fin de l'année, j'ai fait un road trip avec une amie et d'autres personnes qui se sont jointes à nous. Road trip de 2 semaines sur la côte ouest aux États-Unis.
Ah, génial, vous avez vu quoi ?
On est passé par Los Angeles, San Francisco, San Diego, en passant aussi par Las Vegas, le Grand Canyon, tout ça, tout ça. Donc, super voyage, évidemment.
Ouais, un beau voyage.
Ouais, j'ai adoré et je me suis dit à ce moment-là, bon, bah, si je peux un jour, je reviendrai aux États-Unis, pourquoi pas y vivre et y travailler du coup.
D'accord, ok. Donc, du coup, tu rentres en France, tu avais quel âge à ce moment-là de ce voyage?
Donc, à l'époque, j'avais 23 ans et j'étais en dernière année pour mes études. Et donc, quelques mois après, j'avais une conversation avec une amie qui me dit, oh, bah, je viens de voir la story d'un copain, il est à Orlando en Floride, il travaille pour Disney, bah, lui, il a la belle vie.
Ah, et là, ça fait tilt.
Et là, je me dis, moi, je suis une grosse fan de Disney, c'est à savoir.
D'accord.
Et je me dis, mais c'est mon rêve. du coup, j'ai pris contact avec la personne et je me suis un petit peu renseignée. Il s'avère qu'en fait, il y a un programme d'un an chez Disney à Orlando, en Floride, dans le parc Epcot pour les Français. Il y a un pavillon français dans un des parcs à Disney et ils embauchent des Français pour une durée en général d'un an ou un petit peu plus avec un certain visa Q1 et donc ils font des rondes tous les ans, ils envoient tous les ans des nouveaux Français.
Est-ce que tu peux nous dire Epcot, c'est un parc qui est un peu particulier, non? Tu peux nous raconter ce que c'est?
Oui, tout à fait. Donc à Walt Disney World, il y a 6 parcs différents. Par exemple, à Paris, vous en avez 2, là-bas il y en a 6. Il y a un des parcs qui s'appelle Epcot, il y a une partie qui est plutôt futuristique avec des attractions du futur, etc., ou enseigner l'histoire, voilà, des buts un petit peu différents. Et l'autre partie du parc, ce sont en fait 11 pavillons, 11 pays différents. Et donc, il y a un des pavillons qui est le pavillon français. Et donc, il n'embauche que des Français. Le pavillon italien, il n'embauche que des Italiens. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir évoluer dans ce milieu. Et c'est une opportunité en or pour les Français qui veulent aller aux États-Unis.
Ah ouais, c'est clair. Alors donc du coup, on en parlait un petit peu hors antenne. C'est la même expérience que ce qu'a fait Johanna, qui a été interviewée dans le podcast il y a quelques mois aussi, non?
Tout à fait, ma copine Johanna, que j'ai rencontrée pendant mon programme aussi là-bas.
Ah, le monde est tout petit.
Ouais, elle est d'ailleurs adorable. Oui, elle a fait le même programme, exactement.
D'accord, ok. Et donc, ce que je te disais, c'est est-ce que tu t'es finalement expatriée aux États-Unis ou à Disney? Parce que c'est un peu le monde merveilleux de Disney. Est-ce que c'est la vraie vie américaine?
Alors, ouais, Disney, c'est en fait Orlando, c'est une ville parc d'attractions, tout simplement. Donc, quand tu pars dans ce programme, tu travailles Disney, tu es logé dans des bâtiments Disney, d'ailleurs. Le bus que tu prends tous les jours pour aller au travail, c'est un bus Disney aussi. Donc, c'est Disney, le petit pays Disney au pays des États-Unis. C'est assez assez intéressant. mais bon, l'avantage, c'est qu'on avait quand même pas mal de possibilité pour faire des back-to-back, donc des week-ends collés, c'est-à-dire de 4 jours, et partir en voyage dans le reste des États-Unis. Donc, ça aide à faire découvrir autre chose que les parcs d'attractions, effectivement.
D'accord. Donc, tu as pu profiter justement de cette opportunité et aller te balader un petit peu aux US, quoi.
Oui, tout à fait. On a pu faire pas mal de voyages entre amis, c'était super.
D'accord. Alors, donc, tu me disais avant tout ça, donc dans ton adolescence, tu as fait pas mal de voyages au cours desquels donc tu as eu l'opportunité de prendre des cours d'anglais, enfin de langue, tout en vivant dans des familles locales. Du coup, ton niveau d'anglais, il était bon avant de partir?
Avant de partir, mon niveau d'anglais était plutôt pas mal. Du coup, vu que je faisais des études internationales, je rendais des projets en anglais. Enfin, j'ai fait une thèse professionnelle, 80 pages en anglais. Donc bon, ça allait à peu près. Mais bon, je dois avouer qu'après presque un an à Disney, parler avec des clients américains, forcément, ça aide énormément. Ouais. Le niveau est un petit peu plus haut.
D'accord. Et tu faisais quoi exactement alors dans le parc?
Alors dans le parc, on est souvent embauché en restauration. Donc moi, j'étais dans le restaurant Chef de France dans le parc Epcot du coup. Et j'étais team leader. Donc en fait, j'étais en charge d'une équipe d'hôtesses dans le restaurant Chef de France.
D'accord, ok, super. Alors, ça t'a plu? Est-ce que c'est une expérience qui peut être renouvelée ou est-ce que tu es partie avec une durée limitée sur ton séjour? Comment ça s'est passé?
En général, c'est une durée limitée, c'est en général un an. Moi, j'avais un contrat un petit peu plus court parce que j'ai voulu partir plus tôt et j'ai remplacé en fait quelqu'un. Donc, je suis partie, je crois, 10 mois. Donc, c'est un
plutôt
contrat…
Plus vite, tu veux dire?
Voilà, plutôt ouais. Plus vite, ouais, tout à ouais. Fait. Bah, pour donner un exemple, j'ai passé le premier entretien en février 2015 et je suis partie en octobre 2015. Donc, ça met un petit peu de temps pour les départs. Et si t'es vraiment motivé à partir et que t'es prêt, tu peux leur dire, bah, si jamais vous avez quelqu'un qui se désiste ou qui démissionne sur place, je suis prête à le remplacer. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'était okay, un petit peu plus court. Ouais, exactement. Wow. Mais c'est pas renouvelable. Tu peux, tu peux prolonger ton visa pendant quelques mois, mais c'est tout. En général, c'est 1 an et je crois 3 mois et pas plus. Après, tu dois rentrer chez toi.
D'accord, ok. Donc du coup, tu savais dès le départ que voilà, ce serait pour une durée limitée. Du coup, comment ça s'est passé ce retour à la maison? Est-ce que tu t'es dit bon bah voilà, c'était cool. Voilà, dans quel état d'esprit est-ce que t'es rentrée et qu'est-ce que voilà, comment s'est passé le retour? Raconte-moi un peu.
Eh ben en fait, j'ai fini mon expérience et je me disais bon bah c'est bien, c'était super. Un an après mes études, j'ai passé du bon temps aux États-Unis, j'ai bien appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables. Maintenant, il est temps pour moi de rentrer et de commencer vraiment ma carrière entre guillemets. Donc j'étais motivée, je m'étais dit bon bah je vais m'installer sur Paris et chercher un boulot et puis on va voir ce que ça donne. Super motivée. Et puis en fait, j'ai vite déchanté en rentrant. En fait, on se rend compte qu'on a vécu des choses complètement différentes et que les gens avec qui on avait l'habitude d'être ont vécu leur petite vie aussi de leur côté, c'est différent. On se rend compte, pour ma part, je me suis rendu compte que la mentalité était vraiment différente comparée à la mentalité américaine. Et ça, ça a été vraiment un coup dur. J'ai trouvé un emploi après 3 mois, après être rentrée, donc à Paris. Mm-hmm. Donc, je me suis installée. Je me suis dit, je vais quand même tenter ma chance, on ne sait jamais. Et puis, ça se passait globalement bien, mais vraiment, je passais... quand même 2h30 dans les transports parisiens, je marchais, je prenais un bus, je prenais le RER, je prenais un autre bus et je marchais jusqu'au travail tous les jours et donc aller-retour. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs à Paris, hein, c'est pas que moi, mais je sais pas, c'était assez morose comme ambiance comparé à l'ambiance américaine à Disney, forcément c'est pas la même chose. Et puis les gens se plaignent beaucoup et puis voilà. Donc je me suis dit en fait, je me sens plus à ma place du tout. J'ai l'impression que mon pays, c'est plus l'endroit où je dois être, où je me sens plus aussi bien qu'avant de partir, en fait. Et je me disais, les États-Unis me manquent énormément. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner.
Ouais, tu voulais y retourner. Mais alors, quand tu dis, tu trouvais donc dans les mentalités aussi qu'il y avait de grandes différences, c'était quoi les différences qui t'ont frappé et surtout, du coup, qui t'ont, déplu, quoi, au point que tu as envie de repartir?
Donc, aux États-Unis, je pense que tu sais très bien, et beaucoup d'autres gens aussi, c'est la mentalité américaine, c'est être super positif, toujours voir le bon côté des choses, tirer les gens vers le haut comme ça. Et c'est vrai, quand on rentre en France, moi, dans mon travail, j'avais quelqu'un qui se plaignait toute la journée derrière mon dos. Donc, je l'entendais se plaindre toute la journée de sa vie, de son travail. Et je sais pas, je me rendais compte que c'est pas très agréable. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que ça. Il n'y a que quand tu es dans les rues, les gens sont beaucoup moins agréables. Ils ne te disent pas bonjour ou ils te regardent de haut en bas ou... ils sont pas graves de toute façon, quoi. Donc c'est un choc culturel important et pourtant c'est mon propre pays, donc c'est assez bizarre.
Ouais, bien sûr.
Donc ça me manquait beaucoup. Surtout
même que tu as vécu 13 ans, comme tu nous le disais en plus, donc c'était pas non plus en terrain
connu. Bon, du coup 26 ans. Ah oui, non, oui, en région parisienne, pardon, 13 ans, tout à fait. Ouais. Mais oui, le choc violent. Et puis c'était d'ailleurs dans le sud de la France, c'était pareil aussi. Quand tu te promènes dans la rue, les gens sont pas très respectueux, je trouve. Et par contre, aux États-Unis, ça ne m'est jamais arrivé que des gens soient pas respectueux dans la rue. C'est un exemple aussi comme un autre, mais dans la vie de tous les jours, je sais pas, l'ambiance était pas la même. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais plus à ma place.
D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un bon point et on en parle souvent. C'est pas évident. Et quand tu disais, du coup, les gens que je connaissais, ils ont continué à vivre leur vie. Du coup, ça a été difficile aussi de reconnecter avec eux finalement, puisque comme tu le dis, quoi, leur vie a continué pendant ton absence et c'est à toi de te refaire ta place finalement un petit peu.
C'est ça, et si tu veux, t'essayes de partager ton expérience à l'étranger, de leur expliquer comment c'était, etc. Mais en fait, tu te rends compte que t'en parles tout le temps et que eux, ils voient pas du tout de quoi tu parles puisqu'ils ne l'ont pas vécu avec toi, donc c'est assez étrange. Et puis en même temps, voilà, les façons de faire en général des gens que tu remarquais pas avant vu que tu faisais quand même, et maintenant que t'as changé un petit peu d'environnement, tu le remarques davantage et tu dis « Ah, mais en fait, je préférais la façon de faire de l'autre pays. »
Ok, donc tu fais ce constat. Pour toi, c'est évident que t'as pas envie, en tout cas, de rester dans l'immédiat en France. Alors, qu'est-ce que c'est la marche à suivre? Quelle est ta stratégie pour pouvoir repartir? Est-ce que d'ailleurs, tu dis que ce sera forcément aux États-Unis ou tu veux juste changer de pays et retourner parler anglais quelque part?
Alors, j'ai vraiment adoré mon expérience aux États-Unis et je me suis toujours sentie bien. Du coup, je me suis dit, je vais tout faire pour y retourner. On va dire que l'Angleterre, j'y ai passé quelques stages et j'y ai passé quelques vacances aussi. J'ai jamais aimé. Bon, il parle anglais, certes, mais c'est un anglais différent d'anglais américain.
Ah ouais,
déjà.
T'as jamais aimé?
Non, j'ai jamais affectionné particulièrement l'Angleterre. J'ai pas eu de bonnes expériences là-bas, donc bizarrement.
D'accord. Bon,
après, bah ouais. Après, t'as d'autres pays qui parlent anglais, mais bon, c'est plus l'autre côté du monde, Australie, etc. Et bon, j'avoue que j'ai débranché les États-Unis. De toute façon, c'était ma passion dans la vie, les US.
Ok.
Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais tout faire pour y retourner. Et c'est là que tout a commencé. Ça m'a pris 1 an et demi, mais j'ai réussi à y retourner entre le moment où j'ai commencé à chercher et à l'envisager et le moment où je suis partie.
Donc là, tu es toujours dans le job que tu as trouvé à ton retour, que tu n'aimes pas particulièrement, en région parisienne.
Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était un CDD de 8 mois. Et en fait, j'avais la possibilité de poursuivre après. On m'avait dit qu'on ferait un CDI et qu'on m'augmenterait, etc. Et en fait, il s'est avéré que on m'a reproposé un autre CDD à la suite. Donc bon, je me suis dit bon, là, c'est le moment ou jamais. Ça faisait déjà 3-4 mois que je cherchais un VIE, mais je vais expliquer ce que c'est aussi. Ça faisait 3-4 mois que je cherchais un VIE, mais vu que je travaillais 41 heures par semaine, entre le travail et le transport.
Il n'y avait pas vraiment de bande passante restante finalement pour rechercher un job, quoi.
Pour chercher
un VIE.
Tout à fait. Pour être concentré là-dessus à 100% et me donner à 100%.
Bien sûr. Alors explique-nous un peu ce que c'est un VIE en plus en détail et justement pourquoi est-ce que ça prend du temps alors ces recherches. Raconte un peu.
Donc un VIE, c'est un volontariat international en entreprise. Donc en fait, c'est Business France qui t'embauche pour représenter une entreprise française à l'étranger. Donc, tu peux chercher un VIE sur le site de Business France, le site CVWeb. Mm-hmm. Tu as pas mal d'offres, mais c'est vrai que c'est quand même assez bouché. J'ai eu un exemple d'une entreprise qui avait posté une offre, par exemple, en marketing aux États-Unis et elle avait reçu 600 candidatures en 24 heures.
Oh, ah ouais, d'accord. Donc, même pour eux, c'est super chiant, en fait.
Voilà, imagine un petit peu. Et du coup, bah, en 24 heures, ils suppriment l'annonce. Donc, il faut être au taquet, comme on dit. Faut
c'est particulièrement
les
sur les États-Unis, du coup, qu'il y a beaucoup de demandes ou c'est un peu partout dans le monde qu'il y a beaucoup de concurrence?
Je crois que les États-Unis, ça fait partie des pays où il y a le plus d'offres. Il y en a qui sont plus demandé aussi, mais les États-Unis, c'est super concurrentiel puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Et en fait, il s'avère que c'est très compliqué d'aller aux États-Unis pour vivre et travailler sans visa. Et des visas, il n'y en a pas 50 000 non plus.
Ouais.
Donc, le volontariat, c'est une offre extraordinaire, sachant que tout est pris en charge par ton entreprise, les billets d'avion, etc. C'est un peu comme être expat. C'est pas complètement pareil, mais ça s'y apparente. Donc, forcément, tout le monde veut partir avec cette formule, quoi. Donc, c'est très concurrentiel.
Pour clarifier, volontariat, ça ne veut pas dire que tu n'es pas payé, on est d'accord?
Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas payé. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce mot d'ailleurs. Mmh. Non, tu es bien payé d'ailleurs, en général, plutôt très bien payé même.
Mmh. D'accord. Ok. Donc du coup, comme c'est hyper concurrentiel, ça te demande pas mal de temps, j'imagine, à préparer ta candidature à chaque offre. Donc, il faut être très réactif et en ayant un job à temps plein et en marchant, je ne sais pas combien d'heures par jour dans Paris, c'est pas facile, quoi. C'est ça que tu me disais.
Oui, c'est pas facile. On trouve toujours le temps de toute façon, mais c'est vrai qu'il faut guetter les offres tous les jours avant qu'elles soient supprimées. Il faut postuler à la seconde et puis il faut faire des lettres de motivation pour chaque offre et pour chaque métier, etc. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, en VIE, les entreprises, elles trouvent toujours quelqu'un qui correspond à 100% à leur demande vu le nombre de personnes qui postulent.
Ouais.
Si tu veux un ingénieur dans un domaine particulier, ça a beau être réservé aux jeunes, tu trouveras quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans et qui sait parler anglais, etc. Donc c'est vachement concurrentiel, mais c'est faisable. Il y a plein de gens qui ont réussi à partir et moi aussi d'ailleurs, mais ça prend du temps. Il faut croiser les doigts, il faut pas lâcher.
D'accord. Alors qu'est-ce que tu cherchais toi exactement comme VIE?
Moi, dans l'idéal, j'aurais voulu du marketing aux États-Unis. Mm-hmm. Dans le genre, je veux tout. Mais ouais. Au final, j'ai trouvé un VIE en business development aux États-Unis et ça m'allait très bien.
Et tu cherchais dans n'importe quelle région
des US? Oui, n'importe quelle région des US. J'aurais été heureuse de n'importe où. Je voulais juste être aux États-Unis.
D'accord, pas compliqué. Très bien. Et alors, comment ça s'est passé? Raconte un petit peu. Et par rapport à ton job d'ailleurs que tu avais à Paris aussi, je crois que tu avais 2-3 anecdotes là-dessus sur ton départ.
Oui, du coup, mon job à l'époque, c'était en CDD. On devait me proposer un CDI qu'on ne m'a pas proposé. Donc, on m'a proposé un autre CDD à la place. Et ben là, j'ai refusé. Je me suis concentrée à 100% dans ma recherche de VIE. Et donc, j'ai décidé pendant 6 mois de chercher un VIE à fond, tous les jours. Donc, j'étais au chômage, bien sûr, mais en recherche de VIE. Et ça m'a aidé à avoir plusieurs opportunités. J'ai décroché des entretiens et au final, à décrocher l'offre que j'ai actuellement. Mais entre-temps, donc je me suis mise de juillet à décembre 2017 à chercher des offres comme ça, sans
une
travail.
Sacrée détermination quand même. Je veux dire, tes parents, ils n'ont pas flippé un peu en disant « Non mais,
tu nous saoules, trouve
un boulot en France si ça marche pas, quoi. Enfin, je sais pas.
Tu nous saoules avec les États-Unis. »
Ouais, c'est ça.
Et moi, non, après, faut quand même être raisonnable. En décembre, j'avais eu des entretiens, j'attendais des réponses, mais voilà, à un moment donné, faut retourner travailler, hein, faut pas se leurrer. Donc, à contre-cœur, j'ai postulé à des offres et rebelote. Mm-hmm. En France, tu passes des entretiens pour un travail à Paris et tu leur dis, tu sais, à la question, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 6 derniers mois? Pourquoi t'as refusé ton dernier job? Eh ben, je voulais partir à l'étranger, mais en fait, je veux plus partir. Donc, c'était assez compliqué de leur expliquer.
Oh, le gros mensonge.
Ouais. En fait, je veux plus partir, j'ai changé d'avis. Ou alors, à l'époque, je crois que j'avais dit, je déteste mentir, hein. Je suis quelqu'un d'honnête, donc très, très dur, mais bon, j'avais pas le choix. J'avais dit que quelqu'un dans ma famille était tombé malade et du coup, je devais rester ici pour un certain temps. Et bon, j'ai réussi à obtenir un job comme ça, puisqu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, non, on pense que tu vas vouloir retourner à l'étranger, donc on t'embauche pas. Même pour des CDD, ils avaient peur.
Ouais, bref, c'est un autre sujet.
Bref, ouais, c'est un autre sujet, mais bon. Ouais. Du coup, j'ai décroché un emploi et en fait, le jour où j'ai commencé cet emploi à Paris, j'ai postulé une offre de VIE à Grand Rapids dans le Michigan. Et en fait, 3 mois plus tard, donc, on me recontacte et on me dit, 3 mois plus tard, en fait, 2 mois plus tard, on me recontacte et on me dit « Oui, par rapport à l'offre de VIE, voilà, je voudrais faire un entretien téléphonique avec vous. » Alors moi, j'étais en période d'essai en CDI dans mon poste à Paris maintenant. Et j'ai suivi les entretiens, on a passé tous les entretiens, toutes les étapes de recrutement. Et en fait, j'étais embauchée en VIE pour Grand Rapids dans le Michigan en
Génial.
Business Development.
Félicitations. Donc, alors, tu connaissais le Michigan? Enfin, je veux dire, tu savais dans quoi tu t'engageais après Orlando? C'est quand même un sacré changement.
Oui, tout à fait. En fait, non, je connaissais pas. C'est vrai que c'est peu connu, en fait, le Michigan, finalement. Je connaissais parce que j'étais allée à Chicago, je connaissais le lac Michigan, donc je me suis dit, ça doit pas être très loin. Et en fait, en regardant sur la carte, je me suis dit, c'est là. Et en fait, comme je t'ai dit, j'aurais pu être n'importe où aux États-Unis, en toute honnêteté, j'aurais été heureuse. Et il s'avère que c'est un super endroit, c'est nature, il y a les lacs juste à côté à 35 minutes, c'est des plages comme si t'allais à la mer. C'est un état génial. Donc en fait, je suis vraiment bien tombée. Je le savais pas au début, mais je suis
génial.
Bien tombée. Ouais. On s'est bien foutu de moi, par contre, quand j'ai dit que je partais dans Michigan, on m'a dit « Ah, mais tu vas te geler là-bas ». On m'a même dit, tu vas te pendre, donc des trucs comme
c'est
ça.
C'est pas vrai.
Le positivisme à la française, tu vois.
C'est pas vrai.
Sans vouloir faire de French bashing, on m'en a sorti des belles.
Ouais, d'accord.
Mais bon, okay. Tu sais comme moi, tu as vécu à Buffalo, voilà, la neige, ça tue pas, ça rend plus fort.
Mais exactement, ça rend plus fort, tu as bien raison. Ça permet d'éliminer la raclette.
Tout à fait. Et Dieu sait qu'on en fait de la raclette ici.
D'accord, alors du coup, mets-moi un peu dans le contexte. Donc finalement, donc le temps que le visa, que tout soit prêt, tu pars quand là? On est à quelle période de l'année?
Alors du coup, on est en février 2018, je commence les entretiens, etc. Et début mars, ils veulent que je commence à être formée en France avant de partir aux États-Unis.
Hyper rapide. Ah ouais, c'est hyper rapide. Et donc, comme tu étais encore en période d'essai, ça t'a permis de pouvoir rompre ton contrat plus facilement en France, c'est ça?
Oui, je l'ai quand même prévenu 2 semaines avant. Mon patron, il a pas du tout apprécié. Ouais. Il m'a dit, je me suis pas trompée sur ton profil travail, donc ça fait plaisir. Mmh. Mais je me suis trompée sur ton profil départ à l'étranger. Je pensais vraiment que tu voulais rester. Et bon, il m'a fait la morale pendant 20 minutes.
Ouais.
Presque me traitant de menteuse, mais bon, c'est pas grave.
Ouais.
Et m'a même dit, de toute façon, c'est qu'un VIE, tu vas devoir rentrer après. Voilà, c'est qu'une petite opportunité.
S'il savait. Coucou.
Et coucou, j'y suis toujours, mais voilà. Ouais. C'est pas grave. C'est dur quand on est loyal comme ça de dire non à des entreprises ou de les lâcher, mais bon, faut écouter son cœur et ses rêves.
Bien sûr.
Pour réaliser ses rêves, et donc, c'est le prix à payer. Donc, j'ai démissionné, je suis partie en formation. Avec ma nouvelle entreprise.
Ok, qui était à Paris aussi, du coup, ils ont leur siège à Paris, ça?
Non, leur siège est à Rennes, en fait. Donc, j'ai passé 2 mois à Rennes en formation. Okay. J'ai adoré, d'ailleurs.
Super. Tu connaissais le coin ou pas du tout?
Pas du tout. Non, pas du tout. C'est une belle surprise.
Bon, très bien. Et donc, mars, avril, mai, donc finalement, à la belle saison, te voilà en route pour les États-Unis.
C'est ça. Donc, le 1er mai, je suis partie aux États-Unis avec deux valises et deux chats à la conquête du Michigan.
À la conquête du Michigan. Génial. Comment ils ont réagi, d'ailleurs, tes parents, finalement, quand tu as réussi à avoir cette offre de VIE?
Bon, toute honnêteté, je les avais bien gonflés. Avant, avec les États-Unis, bon, et quand j'ai repris un travail, ils étaient contents. Et puis, en fait, quand j'ai décroché un VIE, en fait, ils étaient ravis parce qu'ils savaient le mal que je m'étais donné. Donc, ils étaient très contents pour moi. Bon, après, ça, bien sûr, ça fait de la peine de voir sa fille partir à l'autre bout du monde. Mais voilà, ici, ils étaient contents pour moi. Donc, c'était l'essentiel.
Ils savaient que c'était ton projet et voilà, quoi. D'accord.
Ouais, ils savaient que je suis têtue de toute façon, que c'était ça ou rien.
Bon, super. Alors, raconte un petit peu. Et comment est-ce que tu t'es préparée à ce départ, si tu t'es préparée, parce que finalement, ça s'est fait assez rapidement. Et puis, bah, comment s'est passée ton arrivée, quoi? Parce que t'es quand même dans un coin très différent de là où t'étais la première fois aux États-Unis. Et puis, je pense aussi dans des mentalités. Enfin, t'étais dans un... Voilà, t'étais pas dans un parc d'attractions, quoi. Raconte un peu.
Oui, tout à fait. Donc, bah, moi, je m'étais pas quand même pas mal renseignée. Ça faisait un moment que j'attendais de partir, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. D'ailleurs, j'étais inscrite sur des listes pour le Canada, pour le PVT. Donc, je m'étais renseignée sur des expériences de différentes personnes en Amérique du Nord, de comment s'expatrier, même avec des chats, quelle procédure. Tout ça. J'étais prête à partir. Mon entreprise me soutenait aussi à fond. Du coup, comme je l'ai dit, avec Business France aussi, on est vachement aidé. Ils nous payent les billets d'avion, etc. Donc, ça aide à planifier tout ça. Et en fait, il s'avère qu'une semaine avant que je parte, pour Grand Rapids, ma grand-mère était à un mariage en France et a rencontré des gens qui habitent à Grand Rapids, dans le Michigan, des Américains.
Sérieux?
Oui.
Genre, enfin, c'est quand même pas une grande ville, quoi. C'est marrant. C'est pas des gens qui viennent de New York. Excellent.
Le truc improbable, c'était ma destinée. Et donc, en fait, ils m'ont hébergé pendant deux semaines quand je suis arrivée aux États-Unis. À la base, je devais prendre un hôtel. Donc, mon entreprise m'aidait à prendre un hôtel, le temps de trouver un appartement, etc. Et en fait, ils m'ont hébergé avec mes deux chats pendant deux semaines. Ils étaient d'ailleurs encore en France quand je suis arrivée chez eux. C'est leur fille qui m'a accueillie. Adorable. Enfin, tu vois, la mentalité américaine, l'accueil, incroyable. Donc, j'ai vraiment été... très chanceuse sur ce coup-là. Et donc, ça m'a facilité le déménagement et l'acclimatation au Michigan.
Ah bah, tu m'étonnes. Non, mais la probabilité qui était quand même sacrément faible. Et puis, comme tu dis, quoi, cette hospitalité à l'américaine. Mm-hmm. Puis, en plus, avec tes animaux, quoi. Enfin, bon, ça, je trouve aussi très américain. C'est que on remettra jamais, en fait, en question le fait qu'on puisse t'accueillir ou pas si t'as des animaux de compagnie. Les animaux de compagnie, ça fait partie de la famille ici, quand même.
C'est sacré, ouais. Je suis d'accord.
D'accord, moi génial. Alors raconte un petit peu. Donc du coup, tu t'installes chez eux avec leur fille que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et avec tes deux chats. Et tu commences ton job. Comment ça se passe?
Oui, j'ai commencé mon job. Je crois que je suis arrivée le mercredi à Détroit et après j'ai fait la route. Je crois que j'ai commencé mon job le vendredi. Donc je travaillais chez un partenaire de mon entreprise. Donc le partenaire était situé à Grand Rapids et j'allais dans leur bureau et mon équipe était située en France. Et donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, grosse anecdote, même trois semaines après mon arrivée, j'ai rencontré la personne qui est aujourd'hui mon mari.
Ah ah, alors toi tu ne perds pas de temps. Raconte un petit peu. Donc arrivée sympa. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as fait justement pour rencontrer du monde et puis comment est-ce que tu t'es tu as rencontré ton futur mari sur le chemin?
Alors moi je ne suis pas du genre à aller à la rencontre des gens dans la vraie vie. Du coup je me suis dit tiens je vais mettre sur les apps pour rencontrer des gens. On ne sait jamais les applications de rencontre, on ne sait jamais faire des amis ou plus si affinités. Et donc je m'amusais à regarder ce qu'il pouvait y avoir. Dans le Michigan et à Grand Rapids. Et en fait, je suis tombée sur mon mari. On a commencé à discuter. Et aujourd'hui, on est mariés. On vit ensemble. Et on a même un petit chien ensemble. Mais voilà, en gros, ça s'est passé comme ça. Et une affinité de fou. Et en fait, on a les mêmes valeurs. On aime les mêmes choses. Mmh. C'est quand même assez incroyable pour quelqu'un qui est né et a été élevé à Grand Rapids aussi. Donc, l'ouverture d'esprit est quand même assez impressionnante. Pour finir avec une Française, c'est fou.
C'est génial. Donc, vous vous rencontrez. Donc, on va faire un tout petit peu marché. Vous vous rencontrez donc sur une application, ce qui est finalement quelque chose de maintenant de plus en plus courant. Hein, et vous discutez. Là, tout de suite, tu dis, le mec est intéressant, faut qu'on se rencontre.
Ben non, c'est pas mon style. On a discuté pendant quelques jours quand même.
Oui, non, mais bien sûr. Je dis pas que ça allait tout de suite, mais.
Ouais, non, ça me prend un petit peu de temps pour faire confiance aux gens. Non, on a discuté. En fait, bon, il a commencé à me parler en français, donc déjà, je me suis dit ah ouais, il fait l'effort alors qu'il parlait pas du tout un mot. Donc déjà, c'est agréable, ça fait plaisir. Et ensuite, on s'est rencontrés, oui, dans la vraie vie, effectivement. On s'est rendu compte qu'on avait vachement de points communs et. Et du coup, on a poursuivi notre histoire comme ça. J'avais donc un visa J1 de 1 an et demi. Donc, okay. Jusqu'à octobre, en fait, j'avais un J1 de 1 an à la base, de mai 2018 à mai 2019.
Ouais.
Et mon visa était prolongé de 6 mois. Donc, 1 an et demi aux États-Unis, à Grand Rapids, dans le Michigan, jusqu'à octobre 2019.
Génial. Donc, tout récent, puisque là, on enregistre ça, on est en avril 2020.
Et, tout à fait.
Donc, on va revenir un peu sur la suite, mais là, ton VIE, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, du coup, comment ça s'est passé? T'étais, du coup, dans une équipe française ou américaine?
Alors, je travaillais dans des bureaux du partenaire, donc j'étais entourée d'Américains, mais je travaillais pas du tout avec eux. Je travaillais avec mon équipe française en France.
D'accord.
Et, et donc, j'avais des clients, des partenaires aux États-Unis, au Canada, donc voilà, je fais pas mal de salons, des rencontres aussi, donc je pratiquais les deux langues, français et anglais, mais oui, mon équipe était principalement en France.
Tu fais donc ton VIE, ça se termine en octobre 2019, j'imagine que tu cherches un moyen pour rester avec, comment est-ce qu'il s'appelle d'ailleurs ton mari ?
Randy.
Randy, donc pour rester avec Randy, quelles sont les stratégies du coup, et puis les options quoi, parce que t'en as pas non plus 15, comment ça se passe ? Raconte un petit peu.
Oui, alors du coup, nous, on était ensemble depuis déjà 1 an quand on a commencé à regarder les options qu'on pouvait avoir. Donc, ouais. Il y a l'option visa fiancé, donc visa K1. Par contre, ça veut dire retourner en France et être séparé pendant 8 mois. Moi, je n'aurais pas pu revenir aux États-Unis pendant 8 mois. Lui aurait pu venir, mais pas moi.
Ouais.
Donc, ça, c'était une option. On aurait pu le faire à la limite, mais en fait, on passait toutes nos journées ensemble. On vivait déjà ensemble, donc on se voyait pas être séparé pendant 8 mois. C'était dommage. Et en fait, quand tu es en visa J1, il y avait une deuxième option, c'est bah tout simplement te marier et après obtenir la green card par mariage.
Ouais, enfin tout simplement, c'est quand même pas tout simplement quand même. Raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé.
Je dis tout simplement, mais ouais, effectivement, pas dit tout simple. Mais ça enlève une étape quand même par rapport au visa fiancé. Si tu veux, t'as pas le fait d'attendre 8 mois pour pouvoir te marier et lancer le dossier.
De repartir. Ouais.
Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc tu restes sur place et tu fais ton dossier mariage. Donc tu te maries, tu envoies ton dossier. Et après, tu attends de pouvoir travailler, donc recevoir une autorisation de travail et après recevoir une green card.
Donc, du coup, on comprend que c'est cette option-là que vous avez choisie.
Ouais.
Comment est-ce que vous l'avez choisie ? Je veux dire, au bout d'un an, je vais encore te ramener ton entourage dans la conversation, mais comment est-ce que ton entourage a accueilli ça ? Coucou papa, coucou maman, j'ai rencontré Randy, ça fait 1 an qu'on est ensemble, on essaie de se marier et puis moi, je vais rester aux États-Unis pour toute la vie. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, en fait, bon, déjà pour nous, c'était finalement une évidence, on comptait se marier dans tous les cas. Ça a avancé un petit peu la chose parce qu'on aurait préféré se marier qu'une fois, pas deux.
Ouais,
mais bon, c'est comme ça, on est tous passés par là, je pense que tu sais aussi. Donc, pour nous, c'était évident, c'était pas spécialement un problème, c'est juste qu'il fallait s'organiser, voilà, faire tous les papiers.
Mm-hmm.
Pour mes proches, en fait, mes parents, par exemple, l'avaient rencontré en novembre 2018 et après, on est allé donc l'année dernière, en avril 2019, en France, donc ils l'ont vu 2 fois, on a passé en tout 8 jours tous ensemble, donc voilà, ils le connaissent bien et en fait ils sont vite rendus compte que c'était la bonne personne pour moi, que c'était quelqu'un de bien.
Ouais.
Donc déjà
ça fait du bien,
voilà,
savoir que tes parents sont avec toi.
Il y a la confiance qui règne de ce côté-là et bien bon, ils ont vu que j'étais très heureuse, du coup.
Ils parlaient anglais, tes parents d'ailleurs ?
Ils parlent anglais, ils parlotent.
Ouais.
Du coup, je faisais pas mal de traductions, mais ça se comprenait en gros, quoi.
Ouais, ils arrivent à communiquer quand même, du coup. Enfin, c'est important, j'imagine, qu'ils puissent communiquer avec l'amour de ta vie, quoi. Ouais.
Tout à fait. Non, mais voilà, du coup, ils étaient assez compréhensifs de ce côté-là. Bien sûr, ça leur brise le cœur de se rendre compte que je vais passer ma vie probablement ici, ou peut-être pas, on verra. Mais pour l'instant, on a prévu de rester ici. Donc, ça implique forcément, si elle se marie aux États-Unis avec Randy, ça veut dire qu'ils vont rester là-bas. Voilà, c'est son choix, c'est les États-Unis pour l'instant. Donc, voilà, c'est pas facile à accepter, mais bon, comme ils savent que je suis entre de bonnes mains, entre guillemets, avec quelqu'un de confiance, ça aide et ils l'ont vite accepté au final.
D'accord. Ou à quel moment ? Parce que j'imagine que vous ne décidez pas ça au mois d'octobre. Quand est-ce que vous décidez du coup de passer par la case mariage ?
Bon, en fait, on en a parlé, je crois, après quelques semaines, après notre rencontre. Je sais pas.
C'est pas vrai.
Je sais pas comment expliquer en fait.
Vous n'avez pas eu de doute quoi. Vous saviez.
Non. Ouais, on savait. ça veut pas dire que c'est simple et que c'est parfait, hein, mais je sais pas, c'était juste meant to be. Ouais. Donc en fait, on en a quand même parlé plus sérieusement, si tu veux, au printemps, donc l'année dernière, printemps 2019, et on est allé en France pour que Randy demande ma main à mon père. C'était wow. Ils sont vieux jeux tous les deux, donc voilà, c'est parfait, ils s'entendent bien.
D'accord.
Donc voilà, on a fait les choses comme il faut, et puis après, on s'est fiancés en fait en juin 2019.
Ok.
Et on s'est mariés un mois plus tard civilement.
Donc aux États-Unis, ça par contre.
Ouais, aux États-Unis, exactement.
Ok, d'accord, génial. Alors félicitations, hein, ça fait pas encore un an que vous êtes mariés du coup.
Non.
super. Donc du coup, à partir de là, tu renvoies tous tes papiers à USCIS, là l'immigration américaine. Tu finis ton VIE du coup qui se termine en octobre. Et alors c'est quoi la suite?
Oui. Alors j'ai tout envoyé le dossier. Adjustment of status, donc de J1 à Green Card. J'ai tout envoyé début août et j'ai donc poursuivi mon contrat VIE jusqu'à fin octobre. Et après, de fin octobre jusqu'à mi-février, je n'ai pas travaillé. J'ai attendu mon autorisation de travail jusqu'à mi-janvier. Et après mi-janvier, j'ai commencé à chercher un boulot. En fait, je n'ai pas commencé à chercher un boulot avant de recevoir l'autorisation parce que aux États-Unis, tu remplis des formulaires chaque fois que tu postules à une offre et ils te demandent si tu vas avoir besoin d'un visa ou d'un sponsorship par les États-Unis ou par l'entreprise, te demande si tu as l'autorisation de travailler aux États-Unis, en fait.
Ouais.
Et je voulais pas mentir et décrocher une offre et après leur dire « Ah bah non, j'attends toujours mon autorisation de travail ». Du coup, j'ai attendu un petit peu. Et donc, ça m'a pris un mois pour décrocher mon premier emploi mi-février.
Ce qui est pas mal quand même, hein. Un mois, c'est rapide quand même.
Ouais, c'est plutôt rapide comparé en France, ça m'avait pris 3 mois, par exemple. Ouais, c'est plutôt rapide, effectivement.
Ok.
Et entre-temps, j'ai reçu la green card le 10 février cette année. Enfin, génial. Le 14 d'ailleurs, le jour de la Saint-Valentin.
Ah, c'est un joli cadeau, c'est plein de symboles, ça, c'est génial.
C'est ça. Que des symboles ici, de toute façon.
C'est ça, exactement. Dans
cette histoire.
Une belle histoire, je ne veux pas faire cucu cheesy, mais ça fait quand même une belle histoire sous le signe de l'amour quand même. D'accord. Donc, du coup, tu reçois ça, tu trouves un premier job. Un job dans quel domaine d'ailleurs?
Alors, le premier job que j'ai trouvé mi-février, c'était pour booking.com, donc site de réservation, job un petit peu, pas élémentaire, mais un job customer service, donc service client, tout simplement répondre au téléphone, gérer les réservations. Voilà. Comme je trouvais pas quelque chose qui correspondait à mon expérience, mes diplômes, je me suis dit, je vais me lancer dans ça, de toute façon, faut que je travaille, faut que je commence quelque part. Donc, j'ai commencé comme ça.
Ok, super. Et alors, comment ça s'est passé, ce job?
Et ça s'est super bien passé en fait. J'ai vraiment compris le milieu du travail à l'américaine pour le coup. Formation au top. Le premier jour, il nous amène la pizza dans la salle de formation. Enfin, c'est ambiance à l'américaine, super positive. Tu stresses pas. Je sais pas comment expliquer en fait. Ils sont là pour toi et tu sais que tu peux poser des questions, etc. Enfin, c'est super bien encadré, je trouve, et c'est super bien fait. Ouais. Donc, super expérience. Et entre-temps, mais en fait, j'avais postulé donc à d'autres offres et j'avais eu des entretiens. Et en fait, quand j'ai commencé le poste à booking.com, j'ai reçu une opportunité pour travailler pour mon entreprise actuelle, donc Gordon Food. Et j'ai dû quitter booking.com.
Le jour où tu as commencé, tu as su que tu avais une offre?
Non, 3 jours après, le mercredi.
Tu deviens la spécialiste de donc du coup parce que enfin je repense à ton expérience en France. Alors du coup, tu retournes voir ton chef, j'imagine que ça se passait bien en plus au bout de quelques jours à peine. Tu les as prévenus tout de suite ou t'as continué jusqu'au dernier moment?
Non, en fait avec booking.com, on avait 2 semaines de formation. Du coup, je suis allée au bout des 2 semaines. En toute honnêteté, j'avais besoin de travailler. Je pouvais pas me passer du salaire.
Ouais.
Et en fait, ma nouvelle opportunité commençait au début du mois de mars. Donc, de mi-février à fin février, en fait, j'ai travaillé pour booking.com.
D'accord.
Et donc, le vendredi, à la fin de la formation de 2 semaines, je leur ai dit, j'ai trouvé une autre offre, on m'a proposé une autre opportunité.
Genre la dernière minute du dernier jour, quoi.
À la dernière minute. Et pourtant, il y a plein de gens qui m'ont dit, don't burn bridges, genre coupe pas le réseau, on sait jamais, tu peux retrouver les gens plus tard, leur fais pas un coup comme ça. Ouais. Et je l'ai longuement réfléchi, j'étais bien stressée quand même.
T'avais pas le choix, t'avais pas le choix, non mais bien sûr après.
Ouais, encore une fois, j'ai fait au mieux, mais en fait la réaction a été complètement différente de la réaction française la première fois. Ma manager m'a dit mais non, mais il y a pas de souci. Je lui ai dit si tu veux que je parte maintenant, je lui ai dit quand même le matin pour le vendredi soir quand même. Et elle me dit non, t'es pas obligée, tu peux rester jusqu'à la fin. C'est toi qui vois, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait compréhensible. T'es pas irremplaçable, mais pas dans le sens où on s'en fout. Dans le sens où il y a tellement de gens, puis tu vois, c'est quand même
parking.com.
Voilà, c'est ça. Tu poses pas de soucis. Je sais plus combien il y a de personnes qui travaillent dans le bâtiment, je crois 300 ou un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, ils trouveront quelqu'un pour me remplacer, c'est pas un problème. C'est juste, encore une fois, question de loyauté, leur faire ça, ça se fait pas. Mais en fait, aux États-Unis, t'as aucune obligation.
C'est vrai. C'est ce qu'on appelle le at-will employment. Et tu peux... On en parlait d'ailleurs avec toi il y a pas longtemps. C'est... Enfin, je sais pas toi en tout cas, mais moi je sais qu'on m'a souvent dit, les copains en France, ah mais oui, mais toi, t'as quand même la précarité de l'emploi aux États-Unis puisque le CDI n'existe pas. Mais finalement, en tant qu'employé, ben justement, ton histoire le montre bien, je trouve, c'est que t'es libre, toi aussi, en fait. Si un jour, tu veux claquer la porte pour une bonne ou une mauvaise raison, d'ailleurs, on s'en fout, tu peux. Généralement, les gens essaient de donner 15 jours de préavis.
Ouais, c'est ça.
Que dalle par rapport à la France, d'ailleurs, où c'est généralement 3 mois. Ouais. Et même les 15 jours, c'est plus de la courtoisie parce que tu le peux. Et puis, quand tu le peux pas, comme toi, ça t'est arrivé, tu tombes aussi sur des gens qui te soutiennent. C'est génial, c'est vraiment super ça.
Ouais, mais c'est ça, t'as tout résumé. En général, c'est 2 semaines. Et en fait, c'est vraiment une question de respect de donner 2 semaines de préavis, entre guillemets. Sinon, en fait, tu peux ne jamais te pointer au travail, en fait. Et au bout de 3 jours, ils considèrent que t'as déserté ton job, en fait.
Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas ça, excellent.
Ou alors, c'est que dans le Michigan, je sais pas, ça dépend peut-être des États, mais en tout cas, ici, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Mon mari m'a expliqué plusieurs fois. Et bon, moi, je ferais jamais ça quand même, ça se fait pas, au moins donner une raison et dire qu'on s'en
non,
va.
Non, mais donc, t'aurais pu gratter 2 jours de plus, en fait, en arrêtant de venir. Donc, le mercredi suivant, ils auraient compté que t'étais plus là, quoi.
Ça, je sais pas, par contre. Non, je pense qu'ils comptent le jour où t'es vraiment parti.
Les jours où t'es,
Et te payent pas les jours où tu viens pas.
C'est les États-Unis quand même, faut pas oublier, c'est vrai.
Oui, donc comme tu disais, t'as la précarité de l'emploi et on va en parler juste après. Mais t'as la possibilité, de partir comme tu veux et t'es moins bloqué comparé à quand t'as un CDI avec un poste un petit peu au niveau. Mais ouais, t'as plusieurs mois de préavis et c'est pareil, c'est dur de travailler avec des gens après leur avoir dit que tu partais. Je sais pas. C'est peut-être que moi dans ma tête, mais j'ai l'impression que...
Non, mais c'est que t'es quelqu'un aussi, t'es sûrement très honnête. Et du coup, c'est étrange, quoi. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. D'accord. Alors, donc, du coup, tu pars, tu disais Gordon Food, donc tu pars dans l'agroalimentaire.
Oui, c'est ça.
Donc, t'as le week-end pour te remettre et puis hop, tu recommences encore un nouveau job, c'est ça?
En plus, j'étais malade comme un chien. Je sais pas ce que j'avais. Ça se trouve, j'ai chopé le coronavirus ce week-end-là. Mais, mais j'étais d'attaque le lundi et je suis arrivée dans mon nouveau job.
Ouais. J'ai donc quoi, cette fois-ci?
Alors là, j'étais pricing. Enfin, je suis toujours, en théorie, pricing analyst. Donc, en fait, je gère les contrats. On a des vendeurs et des clients. Et en fait, Gordon Food est au milieu, donc on achète et on revend à des clients donc de l'alimentaire. Et donc, en fait, je gère les contrats au niveau des prix. Je mets à jour tous les prix dans le système. Je vérifie que chaque client va avoir le bon prix et que les contrats sont à jour tous les mois. Ça change. Si tu veux, c'est de l'agroalimentaire, donc ça varie énormément, que ce soit les viandes, le poisson. Enfin, c'est
tous les jours, quoi.
Les prix de marché, ouais, presque tous les jours, ça change. Donc voilà, en gros, c'est ma mission actuelle. Beaucoup d'Excel et beaucoup de rentrer les prix dans le système. Et on apprend vachement, c'est pas mal.
Bon, et ça te plaît?
Ouais, ça me plaît. C'est une super boîte et des opportunités énormes par la suite. Donc, c'est vraiment génial.
Ok, super. Avec entre tes 2 donc expatriations Disney en Floride et 3 entreprises dans le Michigan, ça te fait donc 4 expériences professionnelles. On a parlé un petit peu des contrats de travail qui étaient différents avec ce qu'on connaît plus traditionnellement en France. Qu'est-ce que tu as noté du coup comme autres différences et peut-être bonnes surprises aussi entre les 2 mondes qui nous séparent entre la France et les US au niveau du travail?
Alors, j'ai noté pas mal de différences, surtout par rapport au recrutement, en fait. C'est en plusieurs étapes ici. Bon, ça l'est aussi en France, mais le recrutement ici, tu as un entretien téléphonique de environ 30 minutes. ils appellent ça un phone screening. Donc, ils te posent des questions basiques en général sur tes expériences, ou alors ils te demandent qu'est-ce que tes anciens managers ont pensé de toi, ou alors voilà ce que tu veux devenir, quel est ton salaire, ta fourchette, et en quoi tes expériences pourraient correspondre au job. Donc, en général, c'est quelqu'un de la RH qui fait les premiers entretiens comme ça. Après, si tu es sélectionné pour la suite, tu as un entretien en général avec ou une personne qui a un poste similaire, ou directement ton manager, ou directement les deux. Et donc, ils te posent des questions un peu plus poussées, en mode, ça va être des questions, qu'est-ce qui a été ton plus gros challenge dans tes expériences professionnelles, cite-moi une expérience où tu as eu affaire à un client ou quelqu'un dans le monde professionnel qui n'était pas d'accord avec toi, comment tu as réagi, des questions comme ça. Et après, si tu avais cet entretien-là avec quelqu'un qui est censé avoir le job que tu vas avoir, bah, l'entretien suivant, en théorie, c'est avec le manager, du coup, si tu l'as pas eu avant. D'accord. Donc, en général, c'est en trois étapes, deux ou trois étapes, j'ai l'impression. Mais pour Gordon Fu, par exemple, j'ai eu juste le phone screening et après l'entretien avec ma collègue que je remplaçais et mon manager directement. Et c'est tout. J'étais embauchée comme ça. Donc, ça dépend vraiment.
Au niveau de l'emploi, moi, j'ai noté aussi sur le recrutement, notamment, que les références comptent beaucoup plus qu'en France. En France, bon, après, moi, j'ai pas beaucoup travaillé en France, donc peut-être que je rends pas justice au système, mais les lettres de recommandation et le fait, tu sais, quand tu candidates quelque part, on va te dire, OK, qui sont les trois références. Généralement, on te demande quelqu'un avec qui tu as travaillé, quelqu'un pour qui tu as travaillé, et peut-être un de tes clients ou quelque chose comme ça, qui puisse, en fait, parler de ton work ethics, de, voilà, comment est-ce que tu délivres au travail. Et moi, en tout cas, en France, j'avais jamais vraiment l'impression que c'était quelque chose qui avait été pris au sérieux, et je fais pas mal de recrutements maintenant. Et c'est un truc hyper important, quoi. Enfin, tu peux annuler complètement une embauche en fin de parcours si ces références sont pas bonnes. Ouais, je sais pas si t'as observé ça aussi.
Ah oui, t'as raison. Oui, tout à fait. Donc, t'as les références avec les anciens employeurs, et donc, ils peuvent les contacter, etc. Ça, je pense que c'est un petit peu en France pareil, mais pas sûr. Et puis, t'as aussi les références quand tu connais quelqu'un qui travaille dans la boîte. Par exemple, tu connais quelqu'un qui travaille dans la boîte pour laquelle tu postules, tu leur demandes de te référer, entre guillemets, je sais pas si ça se dit. et effectivement. Ouais, voilà. Et puis, du coup, bah, ça appuie vachement ta candidature, ça, c'est sûr. Ça aide
et énormément. Ils ont souvent aussi des sign-in bonus. C'est-à-dire que si toi, demain, tu as quelqu'un que tu connais qui va être embauché chez Gordon Food, je sais pas si c'est le cas chez Gordon Food, mais puis peut-être pas encore dans la future crise économique dans laquelle on est en train de s'empêcher, mais t'as souvent des sign-on bonus, c'est-à-dire que si tu recommandes en fait quelqu'un qui va finalement être embauché, c'est-à-dire que t'as fait gagner du temps à ton entreprise, et très souvent l'entreprise va offrir, je sais pas, 100, $500 à la personne qui a recommandé et la personne qui arrive.
C'est génial, tu vois, ça, je savais pas, par contre, ça peut être bon à savoir. Non, mais tu vois, ça va dans l'optique de l'attitude américaine, ça m'étonne pas. C'est juste génial. Non, il y a ça aussi exactement. Et puis, ouais, il te pose pas mal de questions aussi au recrutement qui surprennent un petit peu.
Genre quoi?
Genre, quelle est ta race, quelle est ton ethnicité,
c'est à l'écrit, on te demande pas ça.
Oui, voilà, non, ça, elle te demande pas. Ça, c'est dans le pré-recrutement.
Je pense que je me décompose si on me demande en tête et tête, quelle est ta race.
Non, ils disent pas ça, ouais, effectivement. Aujourd'hui, j'ai un entretien et on m'a dit, on peut pas vous demander votre salaire actuel, du coup, voilà, je vous donne la fourchette du poste, vous me dites si ça va. J'étais surprise qu'ils te demandent pas, ils veulent même pas te demander le salaire que tu es, en fait, que tu as. Donc, en fait, ouais. Non, ils posent des questions à l'écrit avant les entretiens, en fait.
Ouais, pour screener un petit peu.
Ouais, tout à fait. Et comme on en a déjà parlé, c'est pour aussi. Donc, ils veulent savoir si tu es handicapé, quelle est ton ethnicité, etc. Pour, en fait, après montrer qu'ils ont bien embauché des handicapés et des personnes de couleur ou pas. Enfin, ils appellent ça ici latino ou white. C'est assez choquant quand on est français qu'on voit ces mots utilisés. Je trouve ça super raciste. Mais, en fait, il s'avère que c'est pour une bonne cause. C'est pour montrer qu'en fait, ils embauchent des gens de tout horizon.
C'est ça. D'ailleurs, moi, je trouve que le mot qu'ils utilisent pour ce que nous, on appelle la discrimination positive, que je trouve ça assez horrible en français, en anglais, ça s'appelle affirmative action.
D'accord.
Et je trouve que c'est vachement parlant, en fait, comme tu disais encore de cette mentalité. En fait, c'est on a décidé de faire quelque chose et on se tourne vers cette solution. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Bref.
C'est ça.
Ma petite philosophie du mardi soir.
Et il y a encore une chose super positive que j'ai vécue pendant ma formation, notamment à Booking.com et bah du coup à Gordon aussi. C'est ils te font, quand tu arrives dans l'entreprise et que tu es formé, ils te font remplir des questionnaires, ils te font regarder des vidéos et t'imprègnent bien de du fait que le harcèlement ce n'est pas OK. Et plein d'autres choses comme ça en fait, le respect dans la vie professionnelle d'autrui.
Ouais.
Et le respect des règles aussi, s'il y a un feu, il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin, c'est super bien fait en fait, ils te font tout faire par ordinateur. Et j'avoue que j'avais jamais vécu ça en France par exemple.
Et est-ce que tu t'imprègnes du coup aussi de la culture d'entreprise du coup quand on te montre toutes ces choses-là ?
Oui, tout à fait. Du coup, tu dis, ah, mais en fait, c'est super respectueux et bah, tu te rends compte que c'est appliqué dans la vie de tous les jours. Les gens sont très respectueux et eux, en même temps, très friendly, tu vois. Je sais pas, tu peux parler de n'importe quoi avec ton manager alors que la hiérarchie est tellement importante pour moi en France. Ici, j'ai l'impression que c'est pas le cas, en fait. Et c'est assez agréable, mais en même temps, je pense que ça doit avoir ses limites quelque part. Moi, je serais toujours respectueuse de mon manager, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui en profitent, du coup.
Ouais, c'est possible, ouais, je sais pas. D'accord. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Peut-être que les organisations sont un peu plus plates que pyramidales dans notre système qu'on connaît.
D'accord. C'est ce qu'on te fait ressentir, en tout cas. Ouais.
Et alors, tu me parlais aussi des horaires. Tu peux m'en parler un petit peu?
Oui, alors les horaires, je te donne un exemple. Là, mon poste chez Gordon Food, je suis censée finir à 5 heures. Donc, je travaille de 8 heures du matin à 5 heures du soir avec une heure de pause à midi. Donc, ça fait une semaine de 40 heures. Donc, ça, c'est pas énorme. Quand on dit les États-Unis travaillent énormément, si tu travailles dans un bureau avec des horaires comme ça, c'est pas la mort, hein. Vraiment pas. C'est pas les 35 heures, mais ça se fait très bien. Et du coup, à 5 heures, il y a plus personne. Mais moi, je pars pas à 4h59, il y a 5h00. J'attends un peu. Je suis le temps de fermer mon ordi, etc. Et en fait, mon patron me dit à 5h01, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? Rentre à la maison. » Et ça, le truc, ça m'est jamais, jamais, jamais arrivé en France. Ouais. C'est l'opposé. En France, mon dernier poste, c'était d'ailleurs de 9h à 19h. Et si tu partais avant 19h, hein, il faisait la tête, le patron. Il te faisait une petite réflexion. Alors qu'il n'y avait plus rien à faire, tu vois. Si tu fais ton taf, si tu fais ton travail comme il faut… et que t'as fini avant l'heure, ça sert à rien de rester devant l'écran et te tenir la tête avec ton coude, quoi. Mais bon, c'est une grosse différence aussi, ouais.
Très bien. Alors donc du coup, tu as donc commencé au 1er mars ou presque chez Gordon Food dans ton dernier job. Mm-hmm. Et puis entre-temps, la fin du monde a sonné. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ?
Alors comme 22 millions d'Américains, j'ai été ce qu'ils appellent furloughed. Donc licencié temporairement. 22 millions d'Américains licenciés temporairement ou pas. Je pense que ça inclut les gens licenciés définitivement aussi.
D'accord.
Mais on a été beaucoup à être licenciés temporairement et ça a été mon cas. Et en fait, c'est assez surprenant.
La manière dont ça t'est arrivé est assez dingue d'ailleurs.
Ouais, ça surprend. En plus, tu te dis, c'est une grosse boîte, voilà. En plus, c'est l'alimentaire. C'est nécessaire, ça.
Ouais, c'est essentiel, bien sûr.
Voilà. Je m'y attendais pas du tout.
Bien sûr. Donc, du coup, ça faisait combien de temps? C'est arrivé quand? Ça faisait combien de temps que t'étais dans la boîte?
Alors, en fait, j'ai commencé début mars. Pendant 2 semaines, j'étais en entreprise, en formation. Mmh. Et après, mi-mars, ils nous ont dit, vous allez travailler de la maison. Ça commençait déjà à être le confinement, etc. Donc, période difficile. Donc, ils nous ont dit, vous travaillez de la maison. Et donc, les 2 dernières semaines de mars, j'ai travaillé de chez moi. Donc, 1 semaine en formation et 1 semaine toute seule, puisque la formation était finie.
OK.
Donc, ça s'est fait, ça s'est bien fait au final. C'est pas simple, mais ça s'est fait. Mm-hmm. Et en fait, le 27 mars, c'était un vendredi. à 9h50, je reçois une invitation pour une vidéoconférence avec mon superviseur et ma manager. Et il y a écrit dans le titre « Job Position Update ». Donc, je me dis « Mise à jour de poste ». OK. Et je me dis, ah ouais, en fait, le rendez-vous, il est dans 10 minutes. Il m'envoie l'invitation 10 minutes avant. Ouais, moi, j'étais en pyjama, hein, donc j'ai couru, je suis allée me changer. Je me suis un petit peu arrangée la face, comme j'ai pu, pour être présentable. Et en fait, j'ai décroché et elle a commencé par me dire, ma manager, je commence par te dire que tu ne perds pas ton job. C'est temporaire. Et en fait, là, ils ont commencé à parler, à me dire qu'en fait, j'étais licenciée temporairement. Que sous 90 jours, ils étaient censés me redonner mon poste, donc 90 jours maximum. Donc en théorie, fin juin, on verra si ça arrive.
S'ils le font pas, qu'est-ce qui se passe ?
Ben je sais pas. Justement, je me dis que certaines entreprises, elles sont obligées de promettre comme ça, mais après, si ça se passe très mal et qu'ils perdent tout leur chiffre d'affaires d'ici là et qu'ils peuvent pas te reprendre, ils peuvent sûrement pas. Donc je sais pas. ils ont pas, je pense qu'ils ont pas d'obligation. Encore une fois, c'est les États-Unis. S'ils ont envie de te virer et si t'as envie de partir, c'est de deux côtés pareil. Hein, c'est du bien jour sûr au lendemain. Et donc, elle m'a annoncé ça. Elle m'a dit, donc, ton dernier jour, c'est aujourd'hui. Donc, à 10h du matin, on m'a dit, tu finis à 5h ce soir. Ton ordi, ton adresse email va être désactivée. C'est parce qu'on veut pas que les employés fassent du travail et qu'ils soient pas payés. Donc, voilà, on sait qu'il y en a certains qui veulent toujours faire plus. Et donc, voilà, c'est pas autorisé. Donc, on désactive ton adresse email. Mais tu es toujours employé. Tu cumules toujours tes jours de congé. Mais tu seras plus payé, en fait, jusqu'à ce qu'on reprenne une activité normale et qu'on puisse te reprendre.
Oh, bah, voilà. Moi, je suis désolée, d'accord. Donc, bah, comment t'as réagi à tout ça?
Je me suis retenue de pas pleurer tout le long. Ouais. Parce que, en plus, tu te dis,
bah. Ta chaise, quoi. Tu t'y attends pas du tout.
Ah, vraiment, je m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est. Ouais. Je suis à l'abri. Mais en fait, personne n'est à l'abri. Bon, c'est comme ça pour tout. Hein. J'ai pas été la seule, mais.
T'avais déjà entendu le mot furlough?
Ah, non. Je l'ai écrit comme j'ai pu. Je crois que je sais même pas si je l'ai écrit comme il faut. Mais après, en même temps qu'elle me parlait, je googlais sur mon téléphone pour voir ce que ça voulait dire. Ouais. Et en fait, licencié temporairement. Après, elle essayait de me l'expliquer aussi, parce qu'elle connaissait pas ce mot particulièrement. Mais moi, je connaissais pas ce mot, donc j'ai appris quelque chose. Et j'essayais de me retenir, de pas pleurer et tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein,
bien sûr.
Et c'est vrai que ça surprend au début. Et bon, ils te disaient, on va te fournir une lettre pour que tu puisses avoir accès au chômage, parce qu'il y a une aide de l'État, etc. Voilà, et on va rester en contact avec toi. Si tu as besoin de si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Enfin, tu sais, encore une fois, l'américaine adorable, te rassurer, te montrer qu'ils sont présents et que voilà, ils sont vraiment désolés. Ils m'ont dit qu'ils étaient désolés, qu'ils détestaient faire ça plein de fois. Et en fait, la problématique aussi, c'est que quand tu viens de commencer un poste, comme ça, et que tu te fais virer, d'abord, je me suis virée parce que je suis la dernière arrivée. Donc, c'est le plus simple, en fait, de licencier temporairement la dernière arrivée. Ils l'ont fait dans d'autres entreprises. C'est comme ça. Mm-hmm. Et en fait, toi, tu dis, ah ouais, je viens d'arriver. En fait, s'ils m'ont virée, c'est peut-être pas à cause du coronavirus. C'est peut-être moi qui ai fait un truc pas bien, tu vois.
Ah, mais non. On pourrait pas dire que c'est furlough dans ce cas-là.
Ouais, voilà. Donc, moi, tout de suite, je me suis dit, ah, peut-être que j'ai mal fait quelque chose. Et en fait, bon, après, tu vois, bah, encore une fois, il y a 22 millions d'Américains qui sont au chômage. Donc, c'est pas que moi. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on fait avec. On patiente.
22 millions d'Américains, ça fait quoi? Ça fait un Américain sur 10? Parce qu'on est quoi? On est 200, 300 millions?
Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que t'as raison.
Ah, vache, c'est énorme. Sachant que dans les 1 Américain sur 10, enfin. Dans les 200, 300 millions, t'as des enfants et tout, quoi. Enfin, ça fait une énorme proportion de la population active, quoi.
Ouais. Alors, c'est assez impressionnant. Bah, c'est à peu près pareil dans tous les pays, mais bon, c'est vrai que.
Ouais, les chiffres sont impressionnants.
Tu comprends quand ça t'arrive.
Ouais, bien sûr. Alors, du coup, là, donc, tu es donc furlough. Donc, tu es licencié temporairement jusqu'à fin juin. On espère donc que l'activité reprendra normalement cet été. Oui. Est-ce que, du coup, tu as le droit, en carte verte, est-ce que tu as le droit au chômage?
Alors, les cartes vertes ont le droit au chômage et elles ont aussi le droit au chèque stimulus de l'État. Donc, le gouvernement a prévu un chèque de 1 200 $ par adulte, par foyer. Donc, normalement, on a tous le droit à ça.
Sous condition, quoi, ouais.
Mais, je crois que d'ailleurs, sous visa, tu as aussi le droit. Faut se renseigner. Moi, je parle pour Green Card, pour sûr, on y a le droit. D'accord. Mais en fait, moi, j'ai travaillé pour une entreprise française pendant 1 an et demi avec un salaire versé par Business France, donc depuis la France, sur mon compte français.
Ah,
donc,
ils te payaient pas aux US quand t'en veillais, d'accord.
Et non. Donc, je n'avais pas de taxes à déclarer, donc ça, c'est juste génial. Mais c'est à double tranchant. Puisque, vu que je n'ai pas déclaré de salaire américain et que je n'avais pas de taxes à payer, en théorie, enfin, on m'a refusé le chômage, donc ça, c'est sûr que j'y ai pas le droit normalement. Et le chèque de 1 200 $, je l'ai pas encore reçu et je me demande, vu que c'est lié aussi aux taxes, il y a de fortes chances que je le reçoive pas. Donc voilà, double peine. Donc pendant 3 mois et demi, j'ai pas pu travailler, bah, parce qu'on était en process de green card, de visa à green card. Donc ça, c'est, tout le monde passe par là et même pour certaines personnes, ça dure beaucoup plus longtemps d'ailleurs. Donc, je suis reconnaissante de l'avoir reçu aussi rapidement. Mon autorisation de travail. Et donc, j'ai cherché un travail, j'ai trouvé un travail, j'étais bien, ça a duré 1 mois, et là, bim! Et puis pas d'aide chômage. Mais, il s'avère qu'en fait, petite update, hier, j'ai reçu un mail, donc, du gouvernement, enfin, du Michigan en général pour l'unemployment, et ils m'ont dit, demande a été refusée pour le chômage, mais il y a possibilité que vous puissiez remplir une autre demande avec un autre nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, par rapport au coronavirus, avec une raison différente. Et en fait, je l'ai rempli aujourd'hui et je peux remplir en disant que je n'ai pas travaillé assez pour avoir le chômage que tout le monde a, quoi.
Ah bah super. Et
donc, normalement, il y a de fortes chances que je puisse quand même toucher quelque chose.
Une aide, c'est génial.
Ouais. Et en fait, dans le Michigan, tu as le droit à un chômage de, je crois, $362 par semaine. Les taxes ne sont pas prélevées sur ce montant, donc en général c'est moins, mais voilà, pour te donner une idée, c'est ce qu'ils ont hein, au chômage par semaine dans le Michigan, ouais. bien loin de la France et du chômage 80% de ton salaire, mais le gouvernement a ajouté une aide de $600 à ça, donc en gros tu touches presque $4000 sans les taxes, encore une fois, par mois. Donc
$600 par semaine du coup, ah ouais, d'accord,
ouais, plus les 360 voilà. Donc, on verra ce que ça donne, mais effectivement, quand tu peux toucher le chômage et que parce que tu peux plus travailler, c'est quand même une aide énorme. Je pense qu'il y en a.
Bien sûr.
Je connais des gens qui étaient serveurs et serveuses. Voilà, les restaurants sont pas prêts de rouvrir. D'ailleurs, les restaurants sont mes clients, donc c'est pareil pour moi. Je retrouvais pas mon job s'ils ouvrent pas. Ouais. Mais en gros, voilà, ça aide énormément. Donc, faut voilà, aux États-Unis en général, le chômage est très petit entre guillemets. C'est pas un gros montant, mais comme il y a eu l'aide de l'État, ça augmente tout de suite, bah, de $600 par semaine, c'est pas mal, quoi. Donc, il y a pas la sécurité de l'emploi, il y a peu de chômage, mais dans des conditions extrêmes, voilà, ils envoient des chèques de stimulus et ils ajoutent une aide au chômage conséquente. Donc ça, c'est bon à savoir aussi.
D'accord.
Okay. Pourvu que ça se reproduise pas, hein, mais c'est bon à savoir.
Non, bien sûr.
Non, mais
bien
une fin sûr. Du monde. C'est bien une fin du monde.
Ouais. Exactement. Non, mais c'est bon à savoir. Ok. Bon, et alors, si j'ai tout suivi, donc tu attends, et tu t'attends d'ailleurs à retrouver ton job cet été, et c'est tout ce qu'on te souhaite, mais tu nous as dit tout à l'heure que tu avais passé un entretien ce matin, de quoi il s'agit ?
Oui, j'espère retrouver mon poste cet été, ou avant si possible, mais au cas où ça n'arrive pas, je prends les devants et je commence à postuler et avoir quelques entretiens pour un autre emploi. C'est compliqué vu la situation, mais bon, on sait jamais, j'ai rien à perdre, donc je préfère commencer à chercher au cas où en fait.
D'accord, ok. Donc tu prends les devants et bon, bah, c'est tout à ton honneur, c'est super. J'espère que en tout cas tout fonctionnera un peu comme tu le souhaitais. En parlant d'imprévu, donc on parlait de la crise sanitaire actuelle du coronavirus. Tu devais d'ailleurs te marier avec tous tes proches dans quelques semaines. Qu'est-ce que c'est du coup le programme ? Est-ce que malheureusement les choses ont été un petit peu chamboulées ?
Oui, du coup je te parlais de se marier deux fois puisqu'en fait on s'est marié en juillet 2019 en mariage civil et on avait de toute façon prévu d'avoir un mariage, donc une célébration avec tout le monde le 30 mai cette année. Malheureusement, vu la situation, ça a été reporté en septembre. Donc voilà, on attend patiemment de pouvoir célébrer avec tout le monde après notre mariage civil qui s'est donc déroulé l'année dernière.
Bon, écoute, en tout cas, je te souhaite que ça se passe comme tu le veux et assez rapidement. Sache que c'est un signe de bonheur. Moi, j'ai envie de te dire ça, de se marier avec plus d'un an entre les deux mariages. Moi, je me suis mariée en septembre 2012, puis en mai 2014. Donc, tu vois, on a pris le temps et ça s'est très bien passé. Donc, je te souhaite autant de bonheur et une superbe journée quand tout ça sera reprogrammé.
Très bien. Je voulais te poser une dernière question avant que nous passions à la conclusion de cet épisode qui est super intéressant. On a pour l'instant beaucoup interviewé finalement de couples français en fait qui sont allés s'expatrier, mais très peu de couples biculturels. Du coup, j'aimerais bien avoir un peu ton avis, ton expérience sur voilà, la relation biculturelle, fonder une famille biculturelle à l'étranger. Est-ce que tu peux nous parler justement voilà des choses que t'as adorées, des choses, peut-être des surprises, des choses qui peuvent te rendre un peu dingue, des grandes différences, des challenges, etc. Tu peux nous en parler un peu ?
Oui, bien sûr. J'adore le mot biculturel, c'est génial. Alors, nous, comme je te disais, on est super similaires. On partage les mêmes valeurs, on veut les mêmes choses dans la vie, en gros. Ça ne veut pas dire qu'on se dispute pas pour qui va faire la vaisselle ou sortir le chien. mais bizarrement, on est très, très similaires. Donc, on n'a pas énormément de différences dans notre couple, mais il y a quand même des différences qui sont culturelles, je pense. Je peux t'en donner quelques-unes, je crois que j'en ai trois. La première, c'est au niveau de l'environnement. J'ai l'impression qu'en France, on nous inculque vachement le respect de l'environnement d'une manière générale. Et ici, ici on est dans le Michigan et en fait je te donne l'exemple de démarrer sa voiture avant d'aller au travail, genre 15 minutes je crois, c'est 15 minutes avant qu'elle s'arrête, tu peux la démarrer à distance. Tu la démarres de chez toi, tu la laisses tourner pendant 15 minutes avant d'aller au boulot. Et il y a ça, et puis l'été, c'est la clim. Et les gens, des fois, ils vont même au supermarché et ils laissent tourner leur voiture.
Non, mais sérieux.
Si, si, ça c'est vrai. Pour pas que ça refroidisse ou pour pas que ça se réchauffe en été. Donc moi, c'est assez impressionnant. Et mon mari, du coup, fait ça. Et j'ai fait la remarque plusieurs fois. Ouais. Non, mais c'est bon, tu nous empêches avec ton pot d'échappement. T'as pas besoin de le faire 15 minutes avant. Ouais.
C'est la catégorie truc qui te rend dingue.
ouais, un petit peu. Mais bon, ça va. En fait, il comprend. C'est juste que personne lui a jamais dit quoi que ce soit, en fait. Parce qu'ils sont... Et en fait, personne leur dit aux États-Unis de respecter l'environnement. C'est encore assez récent qu'ils respectent l'environnement. Ils ont été catégorisés comme les plus gros pollueurs du monde pendant un certain temps. Maintenant, c'est la Chine. Et donc, ça en fait partie. Et puis, pareil, faire la lessive, faire une lessive pour 3 t-shirts, quand nous, je sais pas, moi, j'ai été éduquée à en mettre le maximum pour pas le faire tourner pour rien. C'est encore un autre exemple. voilà. Une autre différence culturelle, ça va être au niveau des repas. Mmh. Donc c'est mon mari et puis j'ai observé aussi d'autres Américains dans ce sens. T'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'heure pour les repas dans la journée. C'est vraiment, tu manges tout au long de la journée et puis il n'y a pas d'ordre non plus. Tu peux manger sucré, salé, on s'en fout. Ouais. Je crois que là, ce week-end, il était 1h de l'après-midi, il nous a fait un café. Après, il a mangé son bagel avec le lunch. Non, il a fait un café, un smoothie, et en même temps, il mangeait son bagel avec le lunch. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Voilà, un exemple. Et puis, évidemment, il cuisine pas énormément, que ce soit mon mari ou je pense la plupart des Américains. Je pense qu'ils sont d'ailleurs très frustrés que les restaurants soient fermés actuellement. Heureusement qu'il y a encore les drives. Mais voilà, c'est une différence culturelle énorme. Et bah, du coup, il est ravi. C'est plus lui qui s'est adapté à mon mode de vie au niveau de la nourriture, avec des heures de repas, pas tous les jours à la même heure, mais à peu près, tu vois, un petit peu
hors. Vérité, quoi.
Voilà, et puis plus healthy, je dirais, un peu plus sain au niveau de la nourriture. Ouais. Et une grosse différence aussi qu'on a pu observer tous les deux, c'est que moi, je suis quelqu'un d'assez factuel et j'adore donner des détails et dire la vérité. Et rien que la vérité. Non, je rigole. Ouais. Mais alors que, par exemple, un Américain ou bon, mon mari en général, ils vont raconter des histoires, quelque chose qui s'est passé, et ils aiment bien embellir la chose, en rajouter, en faire des tonnes. Tu sais, c'est un peu la culture du divertissement à l'américaine, quoi. Il le dit d'ailleurs lui-même, c'est entertaining à l'américaine, quoi. C'est assez marrant. Et pareil pour ça, quand on nous demande si ça va, s'il y a ci, s'il y a ça, l'américain va toujours répondre que tout est beau, tout est rose. Alors que moi, je suis plus du genre à dire, si ça va, ça va très bien, je vais le dire. Et si ça va pas, je vais en dire un petit peu, je vais pas, tu vois. C'est une différence aussi. Ils aiment pas trop rentrer dans l'intime et de se dévoiler aux autres. C'est assez, assez intéressant à observer. Mais dans notre vie de tous les jours, ouais, à part ça. Ah oui, si.
Ah, non, c'est intéressant.
C'est déjà pas mal, mais si on écrit les chiffres différemment en France comparé aux États-Unis, je sais pas si.
Et oui, le 7.
Et le 1 aussi.
Et le 1.
Ah, c'est génial. Un jour, il m'a dit, mais.
Les 7, ils mettent pas la barre.
Ouais, c'est ça.
Et le 4 aussi, c'est vrai.
Mais genre, illisible. Genre, à Noël, tu sais, on faisait le jeu de, je crois, c'est l'éléphant blanc, tu sais, où tu as des nombres et tu tires au sort le paquet. Et bon, bref, c'est un jeu de famille et entre amis à Noël. Mm-hmm. Et donc, j'ai écrit les numéros sur les petits papiers et aucun des Américains présents pouvait me relire. Genre, bon.
C'est bon. Énorme.
Alors, je suis gauchère, j'écris pas bien, hein, ça, c'est une chose. Mais franchement, ils pouvaient pas lire mon 3, ils pouvaient rien lire. Et en fait, bah, mon mari, il me disait, non, mais t'écris mal, fais un effort. Pourquoi t'écris toi un comme ça? Pourquoi tu mets une barre là? Et en fait, on a reçu un colis de ma mère à Noël et il a vu qu'elle écrivait aussi les chiffres comme moi, donc ça vient pas de moi, c'est culturel.
Bah oui, non, mais c'est vrai, on nous apprend pas à faire les chiffres pareils, hein, non, c'est clair.
Ouais, on découvre des petits trucs comme ça.
Ça, c'est vrai,
c'est magique.
Super. Moi, et Randy, il apprend le français un peu?
Ouais, il apprend un petit peu le français, ouais, mais c'est pas simple. Mais parmi les choses que j'adore, par contre, je voulais juste dire, c'est le fait d'être super positif quand tu fais quelque chose, te pousser, toujours te tirer vers le haut, dire des choses positives, et je sais pas. C'est culturel aussi, c'est à l'américaine, mais t'as pas forcément l'habitude. Quand tu réussis à faire quelque chose, on en fait des tonnes et c'est plutôt agréable.
Ouais. Non, c'est vrai, t'as tout à fait raison. C'est très agréable.
Cool. Bon, bah, écoute, génial. Écoute, Alison, je te dis un grand, grand merci d'avoir partagé voilà, toute ton expérience. J'espère que voilà, en juin, tu vas pouvoir reprendre ton boulot. Et puis surtout que ta vie dans le Michigan va bien se passer. Est-ce que tu pourrais, avant que nous nous quittions, bah, voilà, nous faire découvrir justement un petit peu ce Michigan en nous partageant trois endroits qui te tiennent particulièrement à cœur que... Selon toi, on ne devrait surtout pas manquer lorsque, si un jour on peut encore se balader sur la planète, lorsque nous nous rendrons dans le Michigan. Voilà. Qu'est-ce qu'on devrait faire?
Alors, déjà, je veux dire que le Michigan, c'est génial.
Très bien, c'est noté.
Faut pas croire ce que les gens vous disent. Oui, il fait froid l'hiver, mais il n'y a pas que l'hiver.
Ouais.
Il y a quatre superbes saisons. Franchement, l'hiver, c'est, il commence à neiger en novembre, ça finit en gros fin mars en général. Mais ça veut pas dire qu'il neige tout le long à fond comme ça et qu'il fait super froid. Et puis, de toute façon, tu t'y habitues, si t'es équipé, ça va. Mais à côté de ça, t'as un vrai printemps et t'as un vrai été. Et surtout, où je suis sur la côte ouest, tu as le lac à 35 minutes. Donc, c'est juste, voilà, génial. Encore une fois, c'est comme la plage, c'est comme aller à la mer. Donc, tu en profites comme n'importe où.
Kilo est chaude quand on est un peu plus chaude, non?
Un peu plus fraîche.
Ah ouais?
Ah oui, c'est vrai, tu aurais cru.
Toi, tu viens du sud, moi, je viens de Bretagne. Donc, pour moi, elle est chaude.
Ah, bah voilà. Non, mais c'est, moi, ça me va très bien. C'est eux, là, ils critiquent, mais c'est pas si froid. Non, ça se fait, je sais plus en degrés Celsius combien ça fait, mais bon, ça chauffe pas aussi chaud que la mer Méditerranée à Montpellier. Bref, c'est génial et aussi t'as l'automne avec les foliages, comme ils disent ici, les feuilles d'automne, les arbres, les couleurs, c'est magnifique. Donc, je conseille vraiment de venir visiter le Michigan. C'est peu connu, mais c'est superbe. Et je vais donc te donner trois lieux à visiter. Je vais te donner mon restaurant préféré à Grand Rapids, déjà. C'est Roses. Donc, c'est un restaurant sur un petit lac qui s'appelle Reed's Lake à Grand Rapids. Donc, tu vas sur le petit patio et tu as la vue sur le lac. Et c'est très agréable, c'est très calme. Et c'est plutôt pas mal niveau nourriture. Ensuite, on va partir un petit peu dans le nord du Michigan. Tu peux aller à Sleeping Bear Dunes, la dune de l'ours qui dort, en gros, en traduction. C'est au nord-ouest du Michigan et c'est juste une dune de sable avec une magnifique vue sur le lac Michigan, donc l'eau turquoise. C'est un contraste vraiment pas mal. Le sable jaune-orange et l'eau turquoise, c'est superbe, c'est à voir au moins une fois. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. Mackinac Island. C'est donc l'île où je me suis fiancée avec
un. Ah, d'accord.
C'est une île qui est complètement piétonne. En fait, tu prends un petit bateau pendant 15 minutes pour te rendre sur l'île et là, tu peux te promener en calèche, te promener en vélo, tu fais le tour de l'île en, je sais pas, je crois, 1h30. C'est petit, mais c'est grand à la fois et c'est nature et c'est juste génial. C'est des bâtiments à l'ancienne, à l'américaine. C'est superbe. C'est à faire au moins une fois si tu viens dans le Michigan.
Ah, super, écoute, ça donne envie en tout cas. Très bien, écoute, un grand, grand merci, Alison, d'avoir pris le temps de me raconter tout ça. Et je pense que, comme tu dis, les foliages, donc venir faire un tour à l'automne, ça doit être trop sympa de profiter de l'été indien dans ta région.
Oui, tout à fait.
Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une excellente soirée. Et puis, je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, Anne-Fleur, pour tout. Et puis, je te souhaite une bonne soirée aussi. Et puis, à bientôt sur le podcast.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous qui avez écouté le podcast dans son intégralité. J'espère que la balade vous aura plu. Si vous voulez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, sur le compte du podcast French Expat, le podcast. Vous y retrouverez d'ailleurs toutes les bonnes adresses de tous nos invités depuis le début du podcast. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous rendre directement sur Apple Podcast en nous laissant plein d'étoiles et un petit commentaire. C'est le meilleur moyen de nous aider. Pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Tous les liens sont disponibles dans les notes du podcast, ainsi que sur notre site internet www.frenchexpatpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.